L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.
Heureusement que j'ai l'horloge à l'œil, parce que la semaine dernière, vous alliez entamer Saint-Antoine de Padoue, comme ça, en bas de page, à une minute de la fin, et je soupçonne que cet homme-là mérite davantage de développement, non?
Eh bien, vous allez être déçu.
Non.
Oui.
Vous n'avez pas travaillé sur Saint-Antoine de Padoue.
Parce qu'on va arriver à François de Osuna. Voilà, encore un autre François.
Vous voulez dire que vous avez fait l'impasse sur Saint-Antoine de Padoue? Et si on vous interroge là-dessus, à l'examen, alors?
Ah ben, mon cher, je pourrais quand même répondre, que ce fut un très brillant théologien.
Oui.
Mais je vais pas vous
ça,
exposer.
Ça, c'est fumeux, ça.
Je vais pas vous exposer la théologie ici, car nous sommes à une exposition d'histoire et non pas de théologie.
Ah, vous voulez dire que Saint-Antoine de Padoue n'a pas vraiment marqué l'histoire, hein,
si si. Ah si. Mais vous êtes, vous, un petit traître. Parce que vous...
Quoi, vous vouliez les questions avant?
Je connais votre jeu, hein.
Mais on dirait un candidat à une élection, alors. Vous vouliez les questions avant, alors.
Tout à fait. Vous savez, 12 ans de jésuite, hein. Bon.
Bon, allez, c'est fini.
Bon. Alors, justement, je vous ai dit que... On va quitter Saint-Antoine de Padoue, qui a été proclamé, je vous l'ai dit, en 1946 par le pape Pie XII, docteur de l'Église.
Qui n'était pas moins un grand théologien.
Qui n'en était pas moins un grand théologien, qui en était surtout un grand théologien. Et on va penser à un autre.
Certains disent que c'était un dur. Padoue, dur, jeu de mots.
Bon. Oh. Oh. Bon, alors, on va parler de François de Osuna, qui a vécu de vers 1492 à 1540. François de Osuna était une personnalité assez attachante. C'était un célèbre mystique anversois, donc de la ville d'Anvers en Belgique, passionné de mystique espagnole, qu'alors on considérait comme suspect, à savoir les alumbrados. Mais, quoique passionné de mystique, et surtout de la mystique espagnole des alumbrados, il ne s'écarta jamais de l'orthodoxie théologique et doctrinale. Il fut très apprécié en cela par sainte Thérèse d'Avila, qui est né en 1515, a eu sa conversion spirituelle en 1555 et qui a eu son décès en 1582 et était une carmélite espagnole intellectuelle de haut niveau. Or, on doit encore citer Guillaume d'Ockham. Guillaume d'Ockham a été un célèbre théologien franciscain qui a vécu de 1270 à 1347, enseignant à Oxford en Angleterre, des thèses d'ailleurs très audacieuses, qui a été bien entendu, elles ont été sanctionnées par la papauté romaine, qui avec le fait qu'il prit parti pour Louis de Bavière, lui valurent l'excommunication en 1328. Philosophe, Ockham fut aussi un nominaliste. C'est un courant de pensée considérant l'individu comme unique objet accessible à l'intelligence. Pour lui, l'universel n'est qu'un mot sans consistance. Agnostique, il est aussi marqué par un volontarisme absolu. Théologien, il affirme que seule la foi permet d'accéder aux vérités religieuses et que la vérité de Dieu est l'unique principe de ces vérités. La pensée de Guillaume d'Ockham a été influencé et a influencé le théologien anglais Jean Wycliffe, ou Wycliffe, 1320 à 1384, qui, adversaire de la papauté romaine, voulut réformer l'Église en la ramenant à son vécu spirituel des premiers siècles. Alors notre ami Wycliffe nia la transsubstantiation, ce qui lui valut d'être condamné par le Concile de Londres en 1382. Mais il avait influencé Jean Hus en 1372, et Jean Hus qui avait été brûlé comme hérétique en 1415. Il exerça encore une grande influence sur le célèbre Luther, qui a vécu de 1483 à 1546, et qui, moine augustin et théologien allemand, savant exégète biblique de Wittenberg, très opposé aux indulgences et auteur des célèbres 95 thèses considérées comme le point de départ de la réforme. Condamné par Rome en 1520, Luther fut l'auteur de multiples ouvrages savants, dont une traduction de la Bible, et il mourut, je viens de le dire, en 1546. Alors, c'est ainsi que certaines inspirations prophétiques de François d'Assise ont eu une grande influence sur les réformes du christianisme entre le XIIIe et le XVIe siècle inclus. Elles étaient aussi le reflet de pensées sur la christologie qui déjà était préexistante, comme nous l'avons vu ici plus haut, venue de mouvances manichéennes, ariennes, docétistes du premier siècle après Jésus-Christ, et qui transmise, ou, allez, plus exactement infiltrée, à travers divers métabolismes successifs dans d'autres courants théoriquement distincts, mais reliés entre eux par divers canaux plus ou moins apparents, comme, allez, citons le bogomilisme bulgare, fondé au milieu du Xe siècle par le prêtre Jérémie, et par ce truchement retransmis dans le catharisme dès les années 1150. Alors à ce propos, une note du bulletin des Amis du Vieux Saint-Antonin, Nobleval, dans le Tarn-et-Garonne, en France, de l'année 2012, dans un article concernant la présence de Simon de Montfort à Saint-Antonin-Nobleval, voir la note 4, retranscrit un extrait de l'ouvrage intitulé « Histoire générale du Languedoc » au livre 18, chapitre 72, signalant le fait de la présence en cette localité de Saint-Antonin-Nobleval d'un hérétique venu, croyait-on, d'Italie, nommé Henri, auquel on attribua des idées venues du manichéisme. Et on y voit, originaire d'Italie, d'où vinrent tous ces restes de manichéens qui infestèrent comme lui les Gaules durant les 11 et 12e siècles. Et le document précise que ce fameux Henri s'associa avec un autre hérétique nommé Pierre de Bruys qui devint le maître à penser d'Henri. Alors c'est, on le sait aujourd'hui, en travail historique, par des canaux semblables que se répandirent en Languedoc-Quercy des idées dont les sources lointaines remontent au moins à Mani ou à Manès, le fondateur du manichéisme entre les années 1216 et 1276. Je précise que Mani, ou encore Manès, était prêtre en Babylonie, de milieu judéo-chrétien et très influencé par le zoroastrisme persan. Alors qu'est-ce que le zoroastrisme? C'est une doctrine qui était née de Zarathoustra, iranien, ayant vécu approximativement entre les 7e et 6e siècles avant Jésus-Christ. Zarathoustra, réformateur du vieux mazdéisme fondé par Ahura Mazda ou bien Ormuzd, qui était le dieu suprême, créateur et principe du bien, mit l'accent sur la transcendance divine et sur une morale d'action fondée sur la certitude de la victoire et de la justice. Ce thème de la justice apparaît en filigrane dans les contestations alors adressées contre la hiérarchie de l'Église par les cathares d'alors. L'état d'esprit prégnant entre ces 12e et 13e siècles en Italie et en France, surtout en Languedoc-Roussillon, Quercy-Périgord-Sarladais, fut empreint de ces courants, venu donc d'héritages extrêmement anciens, antérieurs au christianisme et de lointaine origine persane. Les vues prophétiques de saint François d'Assise s'inscrivirent à son insu dans cette ligne de fond qui l'influença énormément, tout autant d'ailleurs que sa rencontre avec le lépreux.
Vous ne le voyez pas, mais Bernard Lachereau tourne une page et j'en profite pour insérer une petite respiration musicale.
Pour tourner la page, en somme.
Elle a su par la radio qu'elle partait du Noriveno et de l'occupation espagnole. Tante qui est aussi comme il faut, Chali a monté au cerveau, a faisant mourir l'oncle Anatole. En le ravisant à Litrovo, des airs de Dolph Valentino, un adofno complètement folle. Et chez Tobio au milieu de nuit, en le réveillant à Liadi, non mais dis donc, t'y te rigole. Puisque t'as du sang d'Hidalgo, t'es d'au savoir danser le tango, apprends mocha vite au boulot. Allons Philomène, t'es déjà hors d'haleine, t'es comme une baleine, arrête chevono. Mets te chat d'antiette, tango les fauvettes, j'a fait trop bébête avec tes champs 20 kilos. Haché comme ça, Caliadi, fais-moi un qui sera plus bio. Chassera le tango du cachalot.
CFM.
Toujours avec Bernard Vachereau dans son émission L'histoire des religions. On en apprend de plus en plus, mais curieusement, ces notes ne s'épuisent pas, comme si chaque semaine amenait son lot de papier imprimé. Hein.
Mais mon cher ami,
n'arrêtez pas d'écrire.
Il y a 7 tomes encore.
7 tomes. Ben écoutez, les auditeurs en redemandent alors.
Vous êtes super sympa et les auditeurs sont rudement gentils et patients. Alors, je continue donc en disant que, pourtant, cette rencontre avec le lépreux a été capitale pour François. L'événement se passe en 1203, alors que, quittant Pérouse pour aller combattre dans les Pouilles, lui, le jeune et fringant chevalier, fier de sa force, de sa vigueur, rencontre son exact opposé, la misère, sous la forme de la plus grande détresse, la pire des solitudes, la souffrance indicible, un lépreux. Premier prétexte, et on le comprendra, il veut rebrousser chemin, car un dégoût naturel et une peur se mêlent en lui. Mais c'est un chevalier, c'est un soldat, c'est un combattant. Il se ressaisit et revient sautant du cheval. Dur, dur pour un cavalier fier d'être à cheval. Descendre son cheval pour un cavalier, c'est dur. Et voilà qu'il serre le malheureux dans ses bras. Mais vous vous rendez compte? Serrer un lépreux dans ses bras. Et il lui offre une aumône dans la main. Alors, affirme Celano, son biographe, il sentit une paix et un bonheur immense entrer dans son âme, car il avait compris. Il venait de rencontrer le Christ en ce lépreux. C'est alors que commença son chemin de conversion. Une autre rencontre devait jouer un grand rôle dans la vie spirituelle de François d'Assise, celle qui eut lieu lors du 4e concile de Latran en novembre 1215. Concile où il devait se lier avec saint Dominique. Si aucun des biographes anciens ne confirme la chose, les historiens modernes commencent, documents à l'appui, à penser que François y participa, d'autant plus que ce concile devait statuer sur la création des nouveaux ordres, dont celui de François, et prêcher la croisade. C'était, rappelons-le, le pape Innocent III qui prêchait. Séduit par ce que Hugolin, futur cardinal et ami de Saint-Dominique, lui avait dit de François, il voulut le rencontrer et lui proposa de fédérer les deux ordres, dominicains et franciscains. Bon. Ayant partagé leur foi par la prière et les échanges, ils mesurèrent les richesses de leurs différences. Dominique, avec son ordre des frères Majores, François, avec le sien de Minores, ils convinrent alors de se séparer au plan canonique, mais de rester unis par un amour réciproque et une totale union dans la foi. Deux rencontres, deux chocs pour l'un et pour l'autre. Dominique dira de François, « En vérité, je vous déclare qu'il n'est pas un religieux qui ne trouve profit à suivre les traces d'un homme d'une si parfaite sainteté. » Cette phrase est rapportée par Celano dans son speculum, c'est-à-dire miroir, relation, reflet d'un événement. François, de son côté, fut profondément marqué par ce qui fut beaucoup plus qu'une simple rencontre des deux hommes. Ce fut la rencontre de deux concepts de mission évangélisatrice. L'une, par la persuasion intellectuelle et la charité, l'autre, par la simple bonté et l'amour des pauvres et de ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne. Voir, par exemple, le célèbre épisode en terre arabe de la rencontre de François d'Assise et du sultan égyptien Al-Malek, c'est-à-dire le roi. Aux abords de l'année 1226, François sent la mort venir. Aussi se préoccupe-t-il de rappeler à ses disciples et frères les points essentiels de son idéal de vie religieuse et de conception de l'Église basé sur les évangiles et l'ensemble des saintes Écritures. D'abord, ressembler au Christ. Ceci nous rappelle ce qui sera le thème plus tard de Thomas à Kempis, l'imitation de Jésus-Christ. Pour en revenir à François, il recommande de vouloir ressembler au Christ en suivant d'âme pauvreté. Ensuite, de demander à Dieu le pardon des péchés. Donc l'humilité, puis l'obéissance à la règle franciscaine, et enfin de toujours se référer à Jésus-Christ et à l'imiter. Et là, je rappelle Thomas à Kempis, qui a vécu la fin du XIVe et le début du XVe siècle, enfin la plus grande partie du XVe siècle, et plus récente dans la chronologie purement historique. L'idée franciscaine d'imiter le Christ fut donc une des préoccupations majeures des mystiques très nombreux du Moyen-Âge, et ce sur la base des évangiles, et en particulier de saint Jean au chapitre 13, en citant le Christ, saint Jean reprend ses paroles au verset 15, « où il dit « Car c'est un exemple que je vous ai donné, ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. » Je rappelle que cet évangile ne fut sans doute pas rédigé par saint Jean pour le plus gros morceau, mais par les disciples de Jean dans les années 95 après Jésus-Christ. On peut encore consulter le premier livre de Pierre au chapitre 2, verset 21, où on lit « Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Cette lettre de Pierre, cette première lettre de Pierre, a été rédigée vers ou peu avant son emprisonnement à Rome en 64, c'est-à-dire sous Néron. Puis, dans la première lettre aux Corinthiens, dont nous connaissons l'auteur, au chapitre 11, verset 1, nous voyons « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. » Bon, là, saint Paul a rédigé cette lettre aux alentours de l'année 56. Il faut dire que cela s'inscrit dans le cadre général de l'esprit qui prévalut dans le monde ecclésial et monastique, déjà mis en œuvre dès le Xe siècle, sous l'influence de Cluny et des Bénédictins, et un peu plus tard, du pape Léon IX, pape de 1049 à 1054, qui lutta contre les actes simoniaques, du haut et du bas clergé, vous voyez, et voulut un retour vers un esprit de pauvreté évangélique.
On retrouve l'esprit de François d'Assise.
Toujours.
On va continuer la semaine prochaine avec Bernard Vacherot pour raconter cette histoire des religions.
Oui, mon ami.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, mes amis, si vous en avez la patience.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.